J'ai toujours aimé les plantes depuis que je suis enfant et je pense que ça vient en partie de ma maman aussi parce qu'elle nous a montré comment il fallait faire un herbier. Donc quand on était petit, parce que j'ai beaucoup de frères et sœurs, on allait se promener, on ramassait des fleurs et mon père avait fait une presse à fleurs et on séchait les fleurs dans du papier journal et on faisait des herbiers. Mon papa voulait que je fasse des études qui puissent être intéressantes pour moi plus tard, pour ma vie, donc avec laquelle je pouvais gagner ma vie. Et apparemment, tout ce qui était un peu plante, artistique, c'était pas tellement valorisé. Donc, j'ai pas fait du tout des études dans ce sens-là. J'ai fait des études de langue et de secrétariat. Et j'ai travaillé d'ailleurs pendant de nombreuses années dans des fonctions administratives. Et ce n'est que plus tard, il y a environ 8 ans, que j'ai fait un cours, j'ai suivi une formation d'herboriste de 2 ans. Et ça, j'ai suivi à Gand. Et donc, j'ai mon diplôme d'herboriste, mais je n'ai jamais pratiqué comme herboriste, sauf pour la famille, pour les enfants et mon époux. J'ai d'abord vécu en Angleterre avec mon mari qui est anglais pendant 2 ans et demi. Et j'avais envie de revenir en Belgique, enfin, on avait tous les deux envie de venir en Belgique. Et nous avons cherché une maison assez grande avec du terrain parce qu'on avait des projets de créer une entreprise. En Flandre, c'était assez difficile. Et ma maman avait un cousin qui habitait dans la région, qui était notaire. Donc il nous a donné une liste de maisons à vendre. Et nous avons fait un tour et nous sommes tombés dans le Pays des Collines, qui ne s'appelait pas encore le Pays des Collines à ce moment-là. Et on est tombé amoureux de cet endroit, enfin de cet endroit et de la région. C'était pas évident parce que comme mon mari est anglais et moi je suis flamande, on était considérés comme venant pratiquement d'une autre planète. Mais les gens étaient intrigués parce que nous étions jeunes et qu'il y avait beaucoup de jeunes à ce moment-là qui partaient vers la ville parce qu'il n'y avait pas d'avenir pour eux ici au village. Donc les gens se demandaient qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ces deux jeunes. Et donc, mais on a été quand même bien accueillis. Les gens au début étaient méfiants, mais on a été bien accueillis quand même. Ils venaient nous voir, ils nous parlaient, mais c'était beaucoup des gens plus âgés. Et finalement, on a rencontré des personnages, des gens vraiment intéressants. Au début, notre premier besoin, c'était de créer un emploi. Donc, il fallait mettre l'entreprise en route. Il fallait d'abord restaurer la maison. Il y avait les enfants. On avait déjà une fille et il y avait d'autres enfants qui suivaient. Donc, petit à petit, on a construit d'abord notre nid, qui était la maison, et puis et l'entreprise, l'atelier de mon mari. Et toutes ces choses-là. Dès le début, quand on est venu ici, nous voulions avoir du terrain parce qu'on était intéressés par la nature et les jardins. Mais au début, c'était plutôt pour faire un jardin de légumes et de plantes pour la famille. Mais comme j'avais 3 enfants, que je travaillais et qu'on était très occupés, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Donc finalement, c'est un peu tombé dans les oubliettes. Jusque maintenant, les enfants sont plus grands et j'ai plus de temps pour exprimer ma passion. Pour le moment, j'ai arrêté de travailler, donc je ne travaille plus à l'extérieur et je me consacre uniquement à ce projet. Donc le projet Leader Plus, qui est donc subsidié par la région Wallonne et par l'Europe. Donc j'ai créé une ASBL pour ça, l'ASBL Les Jardins de la Grange. Et en association avec d'autres personnes, et par exemple l'AID Escale qui fait de la réinsertion sociale de jeunes. Pour le moment, je m'occupe rien que de ça. Donc, je dois soumettre le projet, je dois créer le projet, je dois rencontrer des architectes de jardin pour faire un plan. Je dois soumettre ce plan au ministère de l'Environnement et après, je dois faire des appels d'offres à des entrepreneurs de jardin pour faire les jardins réellement. Mais je fais beaucoup de recherches moi-même. Quel genre de plantes je vais mettre, quel genre de thème je vais utiliser pour des jardins à thème. Parce que c'est des jardins à thème que je voudrais créer dans ce terrain qui nous reste derrière les bâtiments de 40 hectares. Quand nous sommes arrivés, c'était une ferme qui n'avait pas d'électricité ni d'eau courante. Donc il y avait juste une pompe dans la cour et il y avait, bon, l'électricité c'était suffisant pour allumer les ampoules, c'est tout. Donc on a dû faire une rénovation complète de toute l'installation électrique et de toute l'installation. On n'avait pas d'eau quoi. Et donc les bâtiments, la grange, c'était vraiment la grange qu'on a transformée en magasin. Au début, on avait de la terre battue. Et on avait une grande porte de grange. Donc c'était énorme. On avait quelques meubles à vendre parce que mon mari vend les antiquités. On avait quelques meubles et c'est tout. Et une grande pièce. Alors petit à petit, on a fait des espèces de petites pièces dans lesquelles on a mis des meubles. On a fait un sol, on a fait un plafond, on a fait une ouverture pour donner plus de lumière et qui est devenue la vitrine de la grange. Bon, l'atelier de mon mari a été construit dans une ancienne porcherie, au fait. C'est drôle à dire, mais c'était la porcherie qu'on a transformée en atelier. Donc petit à petit aussi, on a dû faire ces travaux-là. Et alors la maison, on a dû refaire la toiture, on a fait une salle de bain, on a fait des chambres, on a tout refait. On a tout refait. Et puis alors ici aussi, où vous trouvez ici dans la cour, c'était le puits à purin ici. Enfin, au milieu, il y avait un endroit pour mettre le fumier. Donc on a dû, enfin, le fermier avait pris le fumier parce que ça l'intéressait, mais on a mis une pelouse et on a creusé un étang, on a mis des arbres, on a fait un jardin. Ça, c'était le premier, en fait, le tout premier jardin qu'on avait fait. Donc je voudrais en partie préserver un petit peu la nature et la faune et la flore de locale et montrer, ouvrir ces jardins aux gens, au public, pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir la même envie, aussi faire des refuges de jardin chez eux. Sensibiliser tout public à la préservation de la nature, expliquer que les plantes qui ne sont pas nécessairement des belles fleurs sont des plantes utiles, parce qu'on peut soit les manger, soit les utiliser, soit elles ont tellement d'utilité dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend même plus compte. On ne se rend plus compte que de là viennent souvent beaucoup de médicaments qu'on utilise actuellement, on fait des vêtements, on fait des teintes avec les plantes. Tout ça est un peu oublié, donc je voudrais un petit peu que les gens rappellent ça aux gens. J'ai déjà donc réfléchi à des thèmes et des types de plantes que je vais mettre par jardin. J'ai réfléchi au parcours du jardin. Donc tout ça maintenant doit être discuté avec un paysagiste qui peut me guider pour le terrain, pour les types de sol et pour les dénivelés du jardin. Donc, ensuite, les plantations. Ça nous amène alors à 2006 où ce sera la continuation des plantations et normalement en 2007 on ouvrira les jardins. Mais au fait, il y a déjà deux jardins que je peux faire visiter, c'est celui, le jardin provençal devant, et j'ai un autre jardin qui s'appelle le jardin des clos, des plantes aromatiques qui se trouvent derrière, que je peux déjà faire visiter en attendant. Donc, je vais vous montrer le jardin. Vous voulez me suivre?
Allons-y.
Donc ici, je me suis basée un petit peu sur le principe du jardin du Moyen Âge. C'est-à-dire qu'on cultivait les fruits, les petits fruits, les légumes et les plantes aromatiques dans des carrés, avec des chemins de gravier tout autour pour pouvoir facilement y accéder. Souvent, le jardin était clos. Donc ici, il est clos par deux murs et par une petite barrière en bois. C'est encore en construction. Il y a encore une partie des barrières qui doivent être mises en place. J'ai aussi utilisé des branches de saule pour faire des arceaux pour maintenir les plantes. C'était aussi une pratique du Moyen Âge. Alors, j'ai aussi utilisé les saules pour faire un tressage qu'on appelle le plessis de saule. Donc on enfonce des piquets dans le sol et on utilise les branches du saule têtard, enfin, ou du saule, quand on le taille, on utilise ces branches pour tresser une petite bordure pour les plates-bandes. Ça, c'est le terrain qui va être aménagé en jardin à thème. Je vais utiliser les arbres et le bosquet qui sont déjà existants et les intégrer dans le projet. Donc il y aura un jardin plus près des bâtiments, ce sera le jardin des plantes médicinales probablement, puisque ce sera facile d'accès pour pouvoir prendre les plantes et les traiter. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la maison, du bâtiment, le jardin va devenir de plus en plus sauvage. Donc il y aura une espèce de partie plus stricte à la française. Puis il y aura une partie plus jardin anglais, qui est déjà une intermédiaire entre le jardin sauvage et le jardin français. Et dans le fond, ce sera le bosquet, le bois, l'étang, et vraiment la partie la plus sauvage, plus un refuge naturel.
Et une fois ces jardins terminés, qui va s'occuper de l'entretien?
Ce sera principalement moi-même et la SBL Aïdé Escale qui s'occupe donc de réinsertion de jeunes. Donc il y aura normalement un groupe de 5 jeunes qui vont venir une fois par semaine entretenir les jardins. Je suis occupée énormément, pratiquement toute la journée avec ça, à réfléchir, à faire les projets, à contacter les différentes personnes, à rencontrer les instances diverses pour les subsides, pour le projet. Thank you. déjà dans le cadre du jardin, j'ai fait une activité avec des plantes médicinales. Donc j'avais un petit représentoir avec 6 différentes plantes médicinales que les gens pouvaient goûter, sentir, toucher pour reconnaître. Et ça avait vraiment plu, les gens avaient vraiment beaucoup aimé. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui avaient perdu un peu le sens de l'odorat, parce que par exemple entre la menthe et la lavande, parfois les gens ne sentaient pas la différence. Heureusement, il y avait la plante pour la reconnaître. Et alors il y a beaucoup de gens qui ont dit après, oui, c'est bien votre projet de jardin, je voudrais être tenu au courant. Et donc j'ai gardé pas mal d'adresses de gens que je dois recontacter quand les jardins sont en route. Mais ce que je vais faire aussi, c'est qu'en été, je vais étendre le tiroum au jardin. C'est-à-dire que je vais faire déguster des tisanes et des produits des jardins aux visiteurs. Et alors, ce sera uniquement en été, bien sûr, quand les produits seront disponibles.
La grange et ses jardins, un lieu en perpétuelle évolution.
Donc ici, au fait, c'est du côté nord du bâtiment. Et c'est le début du petit bois, comme on appelle ça. Donc on a planté les arbres qui se trouvent ici il y a environ 25 ans, au début que nous sommes venus ici. Et ce sont devenus déjà c'est devenu un bosquet. Et alors, juste à côté, vous avez la prairie, la grande prairie qui va être utilisée pour faire les jardins à thème. Et derrière moi, il y a les bâtiments qui sont en transformation aussi. Donc ça a été restauré dernièrement et ça va être utilisé par mon mari pour mettre tout le bois et les arbres qu'il utilise pour faire les meubles. Nous avons aussi le projet de... Mais ça, c'est c'est par nos propres moyens. En supplément du projet Leader Plus, nous comptons faire un aménagement des anciennes étables et écuries. Ce bâtiment sera utilisé pour faire des conférences, des ateliers, des activités en connexion avec le jardin. Donc c'est dans cet endroit-là qu'on pourrait faire des expositions d'artistes également, et où nous pourrions inviter par exemple les guides nature qui viendraient faire une explication sur les plantes, et où on pourrait faire des ateliers de confiture, de plantes sauvages, de baies et de fruits.
Le point de vue des habitants du quartier.
Je pense qu'il y a un intérêt de la part des Elzellois. Ils sont un peu interloqués aussi en même temps, parce que les Elzellois disent que c'est beaucoup de travail d'entretenir un jardin. Ils disent oui, mais c'est quand même beaucoup de travail. Surtout quand ils m'ont vu devant, faire le nouveau jardin devant, le jardin provençal. C'est vrai qu'au début, il a fallu tirer beaucoup de mauvaises herbes. Et comme je n'utilise pas de pesticides, de désherbants, plutôt, ils disent oui, il faut asperger, il faut nettoyer tout ça. Donc ils ne comprennent pas toujours la démarche non plus de garder certaines herbes qui pour eux sont des mauvaises herbes. Mais d'un autre côté, ils sont intéressés. Je veux dire, les Elzellois de la gare, en tous les cas, du quartier de la gare où j'habite. Sinon, les instances politiques, la commune, je pense que là, il y a un intérêt. Ils se rendent compte, je pense, que ça pourrait être un plus pour le pays des collines.
De la motivation, mais surtout de la patience, les deux mamelles de la réussite.
Pour monter le projet, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a une machine administrative assez lourde. Donc, pouvez-vous imaginer que pour recevoir des subsides, il faut prouver son sérieux, et il faut remplir plein de papiers qui sont assez difficiles, qui sont assez lourds. Donc, nous avons une bonne équipe au GAL, et nous avons une personne qui est dédiée uniquement pour nous aider. Donc on appelle l'appui technique, et heureusement qu'il est là, parce qu'il nous supporte moralement, et aussi il nous donne un coup de main pour toute cette paparasserie entre guillemets. Il y a parfois des moments où on pense qu'on y est presque, et puis on va voir les instances officielles et on nous dit « Ah, maintenant il faut encore ceci ». Où il faut encore cela. Bon, on recommence, on continue, on retourne. Ah, maintenant il faut encore ceci, il faut cela. On a l'impression que chaque fois, on déplace la borne un peu plus loin, mais qu'on n'y est pas tout à fait. On est obligé de passer par ce chemin-là, quoi. Le GAL, c'est un thème tout à fait fédérateur. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, qu'on connaît de nom. Et donc ici, on fait des choses ensemble, on va dans le même sens. Et parfois, on a des associations entre nous. Par exemple, un producteur d'alcool, qui peut venir faire une dégustation chez nous, ou vice-versa. Moi, je peux par exemple donner des plantes ou prêter des plantes ou faire des choses en activité, des activités avec ces différentes personnes. Ça devient même presque des amis.
Le point de vue du mari de Véronique Marlier, recueilli dans l'atelier d'ébénisterie.
Mes sentiments étaient un peu mixtes, parce que c'est vrai qu'on fait déjà beaucoup de choses ici, et je dois dire que j'ai eu peut-être seulement quelques réticences, mais finalement, elle a toujours rêvé de ça, et nous avons l'endroit parfait pour exploiter un tel désir. Alors finalement, il faut le faire, quoi. C'est ça que je dis. J'ai eu l'occasion de faire ce que moi je voulais faire pendant de longues années. Elle m'a bien soutenu, alors je trouve que ce n'est qu'un juste retour des choses. Et puis, à part cela, ça complémente bien un peu ce qu'on fait. C'est utiliser le terrain que nous avons à bon escient. Donc, je crois que je trouve qu'il faut, le faire. Et j'espère que ça va bien continuer. Les débuts sont un petit peu fastidieux administrativement, ça vous avez probablement compris. Mais je crois que c'est destiné à bien marcher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de choses à organiser. Et on ne peut pas faire semblant qu'on est en dehors. Ça, c'est même, il faut absolument, être de la partie. Mais c'est vrai que ça accapare. Et puis, il y a des choses qu'ils ont besoin de discuter à deux. Et des fois, peut-être mon opinion est intéressante, je ne sais pas. J'espère.
Délaissant la grange aux antiquités et les jardins à thème, nos pas nous emmènent sur des chemins de traverse, appréciés de Véronique Marlier pour leur richesse naturelle.
On se trouve dans l'ancienne ligne 87, qui est une ligne de chemin de fer, qui va de René jusqu'à Flobecq, jusqu'à Lessines, qui allait à Bruxelles, au fait, Donc ici, on est sur la partie qui va vers Flobecq, et ça se trouve pas loin de la grange. C'est devenu un sentier écologique, un sentier de balade. Cet endroit est visité aussi par des guides nature et des amateurs de nature qui viennent faire des balades découvertes. Puisque nous nous trouvons sur le parcours de ce sentier, nous avons régulièrement des baladeurs qui viennent consommer et visiter la grange. Ils aiment beaucoup l'ambiance de l'endroit et l'accueil. Et en plus, ce sont souvent des gens qui aiment bien faire des découvertes. Donc de temps en temps, ils font un petit tour en même temps qu'ils viennent déguster un verre, ils font un petit tour dans la salle d'exposition. Et comme ils viennent régulièrement, ils découvrent souvent quelque chose d'inattendu. Cette ligne m'interpelle et m'attire beaucoup parce que je l'ai toujours connue depuis que je me suis installée ici avec mon mari et puis les enfants qui sont venus. Les enfants ont toujours aimé venir ici pour faire des cabanes quand ils étaient petits. Ils faisaient des cabanes, des balades. Il y a un endroit ici un peu plus loin où il y a une source qu'on appelle la Buse parce que ça sort par une buse et cette eau était potable à ce moment-là. Maintenant, je ne pense pas qu'elle est encore potable, mais les gens y venaient pour remplir de l'eau avec des bouteilles, ils venaient remplir de l'eau pour prendre chez eux. Et nous, on a toujours utilisé ce chemin de fer pour aller d'un endroit à l'autre, aller rendre visite à des amis qui habitaient de l'autre côté du chemin. Et parce que je venais ici avec les enfants en poussette, je viens ici comme ma fille vient avec son enfant aussi, avec mon petit-fils, on vient se balader ici. C'est un endroit vraiment qui a toujours, c'est une espèce de fil rouge pour nous, dans notre depuis qu'on est ici au quartier de la gare. Ben, c'est-à-dire que je trouve cet endroit en particulier très joli parce qu'il y a un changement de couleur selon la saison. Et comme vous voyez ici, il y a le pont, l'ancien pont du chemin de fer, qui est très joli aussi parce que ça donne un peu de mystère. Et aussi, ça abrite de chaque côté des petites pondrières avec de l'eau. Et donc, dans cette eau vivent toutes sortes de batraciens. Ça devrait, à mon avis, ça devrait être considéré comme un refuge et ça devrait être protégé. Donc, parce que c'est quand même un habitat pour toute une série d'animaux, de petits animaux. Et comme vous passez plus loin, vous allez voir, il y a une variation. Donc il y a des endroits très arborés, il y a des endroits où il y a des ouvertures avec des points de vue, avec des beaux points de vue. Il y a de temps en temps un arbre un peu plus ancien, un peu plus remarquable, qui est seul. Et il y a beaucoup d'essences de bois. Ici aussi, d'arbres, différentes essences. Donc, je trouve que c'est un endroit intéressant. Il y a aussi quelque chose d'autre à ce chemin, c'est que j'ai connu plusieurs vieilles personnes, quand je suis arrivée ici, qui se baladaient, qui faisaient le chemin le sentier ici, pour aller à leur maison ou aller faire leurs courses avec leur vélo. Donc il y avait Madelon, il y avait la petite Madelon qui venait ici et elle passait devant chez nous. Je parlais avec elle, elle prenait son vélo, elle allait faire ses courses avec son cabas. Elle venait par le chemin de fer, puis elle prenait un petit raccourci jusqu'à sa maison. Elle ne passait que par les petits chemins. Et elle m'a montré des sentiers que je ne connaissais pas. Alors il y avait Maria qui habitait au bout de ma rue. L'arrière de sa maison, de son jardin, donne sur le chemin de fer. Et quand je me prenais dans le chemin de fer, elle était toujours en train de planter, de tailler. Elle entretenait le chemin de fer presque comme si c'était son jardin. C'était une extension de son jardin. Et je la rencontrais souvent. Et c'était une dame très très intéressante qui faisait la collection de toutes sortes d'objets datant des deux guerres. Donc elle avait un musée des deux guerres, des armes, des cartes postales, des uniformes. Elle avait vraiment un musée chez elle, et donc elle m'appelait chez elle, me montrait son musée. Donc finalement, ce sentier a tous ses souvenirs aussi. En automne, il est vraiment très très beau parce qu'il y a les couleurs des arbres et il y a le soleil qui passe en espèce de taches lumineuses entre le feuillage. Je trouve que c'est alors qu'il est le plus beau. Je suis très... très réservée sur le fait de cueillir des plantes dans la nature pour les mettre chez soi, parce que parfois il y a des endroits où il y en a très peu, et si on en prélève trop, ça risque de disparaître. Donc je préfère ne pas les prendre dans la nature. Pratiquement toutes les plantes sauvages sont comestibles, pas toutes, mais pratiquement toutes. Donc on peut pratiquement toutes les utiliser au printemps quand elles sont jeunes. Les petites pousses qu'on cueille, on peut les mettre dans une salade. Moi, j'appelle ça, j'utilise le mot méditerranéen qui est mesclun, qui veut dire mélange. Et on met un peu de tout. Et ça donne un goût et des vitamines incroyables à la salade. Mais je ne conseille aux gens de ne pas faire ça par eux-mêmes s'ils ne s'y connaissent pas. Je m'arrête toujours ici pour jeter un coup d'œil sur le panoramique du village. On voit l'église au milieu, on voit les bâtiments, on a vraiment une vue d'ensemble et on a des collines tout autour. Donc j'aime bien cet endroit. Et alors pas très loin, il y a un arbre aussi, il y a un bouquet d'arbres qui n'est pas mal, qui donne de jolies couleurs en automne. C'est aussi le départ d'un tout petit sentier qui traverse les prairies, qui va jusqu'à la Rigauderie. Là où j'avais des amis qui habitaient avant, qui ne sont plus là, mais que j'empruntais souvent. On voit un petit peu tout ce que représentent les collines, c'est-à-dire l'église, parce qu'au pays des collines, chaque village a son église. Donc voilà, ça c'est typique. Alors il y a derrière les collines, il y a des arbres, il y a le centre du village avec les toits, il y a une vallée, on voit quelques saules, quelques arbres, donc ça représente assez bien le pays des collines. On devrait faire ici ce que Jacques Van de Vatten a fait sur le sentier de l'étrange, mettre un petit encadrement, parce que c'est comme un petit tableau. C'est aussi un endroit, un pays très agricole, hein, ici, donc dans le pays des collines, donc on voit les champs. C'est boisé, on voit des petites collines, des creux. On voit les fermes, parce qu'il y a beaucoup de fermes qui sont un peu plus éloignées du centre. Le pays des collines en général est connu, surtout les cygnes et deux acres, est connu pour les plantes médicinales. Et à Flobecq aussi, d'ailleurs, il y avait une herboristerie. Il y avait des herboristeries un peu partout. Et beaucoup de fermes avaient aussi des tourriers. C'est un endroit où on chauffe, c'était un peu comme un four à pain. C'était un endroit où on chauffait et le plafond était ouvert et la chaleur passait. Et on posait toutes les plantes au-dessus pour les sécher. Et alors, une fois qu'elles étaient sèches, on les mettait en sachet et on les vendait pour les pharmacies et pour les soins. Maintenant, tout ça est tombé en désuétude parce que le pays des collines n'a pas suivi le mouvement où on industrialise tout ça. Donc, on sèche en grande quantité, on sèche avec des systèmes plus modernes. Donc, le prix de revient n'était pas concurrentiel. Parce que tout était fait manuellement, donc maintenant ça n'existe pratiquement plus. Je sais qu'à Lessines, il y a encore un endroit où ils font la culture de plantes d'angélique. Et ils font de l'huile essentielle d'angélique, et de racines d'angélique et de graines d'angélique. Et ils vendent ça aussi. Il y a encore des herboristeries qui fonctionnent, mais c'est tous des produits, d'après ce que j'ai cru comprendre, des produits importés. Mais ça c'est quelque chose... qui me tient à cœur aussi. Je m'imagine que si on pouvait simplement avoir des champs de camomille, parce que maintenant il y a des endroits où on laisse les champs, les prairies en jachère, et si on pouvait avoir des champs de camomille, ce serait quand même beau. Ça donnerait de nouveau de la couleur dans le pays des collines. même si ce n'est pas pour les récolter.
Voilà qu'au fil de nos déambulations, apparaît la fontaine à Buse.
Quand on venait ici, il y a disons même 10-15 ans, elle était encore potable. Il y avait le médecin du village qui faisait régulièrement des tests et qui nous tenait au courant de la potabilité de l'eau. Et à un moment donné, il a dit maintenant, je pense qu'il vaudrait ne plus en boire parce qu'il y a trop de nitrates dedans. Donc probablement que les nitrates ont percolé des champs. On a traité les champs et ça a percolé puisqu'on est, un peu plus bas ici. Et alors nous, on n'en boit plus. Mais malgré tout, on va encore la voir. Oui, donc c'est un endroit où l'eau sort de la terre. Et on y a mis une buse pour pouvoir la récolter. C'est un endroit que je considère aussi un peu comme mystérieux. Parce qu'on s'imagine qu'il y a des petites bêtes sauvages qui viennent y boire la nuit quand il n'y a personne. C'est un peu mystérieux aussi. Donc faites attention parce que c'est glissant. Le petit bruit de l'eau est agréable. Oui, c'est un endroit qui est connu ici comme un endroit où il y a beaucoup de sources. Il y a un peu plus haut, là au mont, enfin le coin du mont ici, il y a plusieurs sources. Enfin, en dessous des maisons, à certains endroits où il y avait même des gens qui récoltaient de l'eau pour leur utilisation personnelle.
Entre ville et campagne, entre nouveaux arrivants et anciens habitants, le Pays des Collines a plus d'un défi à relever.
Moi, je voudrais dire que le fait que nous sommes devenus un parc n'a pas nécessairement été ce qu'on attendait. Parce que du fait que c'est un parc, on pensait que la nature allait être bien, bien mieux respectée et qu'il y aurait des réglementations pour la construction, pour l'installation de sites industriels et des choses comme ça, des décharges. Mais au fait, on n'a pas été réellement protégé pour ça. Donc moi, au début, j'étais très contente de faire partie d'un parc. Maintenant, je me dis que le parc n'a peut-être pas joué ce rôle-là, ou va peut-être le jouer maintenant, mais ne l'a pas joué en tous les cas dès le début.
Oui, je partage un peu ce sentiment-là. Disons qu'on reste un peu sur sa faim, parfois. On avait parlé de ça, paraît-il. Disons qu'il y a, quand on a créé le parc, je ne sais plus de la date maintenant, exactement, j'ai oublié la date. Il y a eu une série de réunions qui étaient tenues à l'époque, pour un petit peu sonder l'opinion des différents segments de la population, pour voir s'ils étaient d'accord, si ça les intéressait. Et en réalité, donc, ça a été le coup d'envoi de la formation du parc. Et en fait, ce qui était le catalyseur, c'était la menace de l'installation de décharges de dépôts ex-nucléaires entre Els et Llafranc. Donc ça a été vraiment le catalyseur qui a fait qu'on a fait un parc dans l'espoir de bloquer cette éventualité-là. Mais en fait, l'idée de faire un parc naturel existait bien avant. Et ça a toujours été un petit peu oublié, un petit peu... Il y a eu une pression un petit peu ignorée pendant longtemps. Donc c'était venu à cause de ça, ça c'est le catalyseur, c'est comme ça qu'il y a eu le parc. Donc c'était presque une démarche... Enfin, je ne dis pas une démarche négative, mais bon, c'était une démarche pour contrer quelque chose plutôt que pour aller à l'avant au départ. Alors, maintenant, on a un outil qui peut être très bien. Bon, mais disons qu'on est toujours un petit peu à la merci des subventions publiques parce que, comme vous le savez bien, ça, ce sont des choses qui ne marchent pas tout seul. Donc, ça dépend de la finance publique. Donc, on est un peu tributaire des attitudes politiques et des taxes sont parfois entre communes. Disons, beaucoup de beau travail a été fait, mais il faut du monde pour continuer, c'est ça. Donc on est toujours un petit peu tributaire de ça. Mais comme disait ma femme, on a, au niveau environnemental, il est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. Donc c'était vrai que c'est un véhicule touristique aussi, mais ça c'est bien. Mais c'est vrai que on l'a souvent dit que toutes sortes de personnes doivent faire remarque qu'au niveau environnement et nature, ce qui se passe laisse à désirer, hein, vu le statut que nous occupons de parc naturel, en fait, c'est ça. Donc, ça, c'est espéré que ça va se développer.
Je pense qu'actuellement, nous sommes privilégiés quand on voit que l'espace se réduit de plus en plus pour les gens, par exemple, en ville. Je pense qu'on est privilégié du fait qu'on a l'espace et qu'on a la verdure. Et aussi qu'on a le contact avec les gens, parce que ça manque aussi en ville. C'est ça aussi qui fait la beauté du pays, c'est le contact, de connaître les gens personnellement, de ne pas être un numéro. Ça aussi, je pense que de ce fait-là, on est privilégié. Maintenant, il suffit d'acheter un terrain et de construire sa maison et d'y vivre. Mais même pas d'y vivre, il faut même plus s'intégrer. On peut s'installer et puis c'est tout. Et on n'est pas trop impliqué dans ce qui se passe autour de soi. Je pense que maintenant, c'est un peu la mentalité. Je ne dirais pas que tous les nouveaux habitants sont comme ça, mais en général. Surtout si les gens ne s'impliquent pas et qu'ils viennent juste vivre, dormir, vivre, et ils travaillent ailleurs. Ils envoient leurs enfants dans des écoles à l'extérieur. Là, il y a un risque. Parce que quand les anciens ou les nouveaux anciens auront disparu, je ne sais pas comment ça va perpétuer. Donc il faut continuer à informer les enfants des écoles et du pays des collines. Il faut continuer à leur donner cette information. Parce que c'est déjà arrivé aussi qu'on a eu des visites d'écoles, d'enfants qui sont venus visiter l'atelier de mon mari pour voir un peu comment ça se passe chez un ébéniste. Et je pense que quand on aura les jardins, il y aura probablement les écoles qui vont venir avec les enfants aussi. Puis du fait aussi que je participe à des activités comme par exemple pour la préservation du saule têtard dans le pays des collines, là aussi on fait des ateliers avec les enfants. Donc on a un contact direct avec les enfants, on leur explique, parce que les enfants qui sont nés ici, leurs parents ne leur expliquent pas nécessairement ce que c'est un saule têtard ou un chêne, ou ils ne leur expliquent peut-être pas, ils oublient peut-être ça, donc il faut quelque part continuer à leur expliquer. Je pense que quelque part j'apporte une petite pierre à ça, oui, transmettre, montrer, expliquer, parler, raconter des histoires. Et ça, il y en a quand même pas mal dans le pays des collines qui racontent des histoires. Je pense que raconter des histoires, ça, c'est une façon très ancienne et très, très pertinente de transmettre les informations. Et le folklore et les traditions. Je pense qu'il faudrait créer une cohésion entre les anciens et les nouveaux. Et aussi avoir un lien entre les jeunes et les personnes plus âgées, parce que les jeunes aussi sont beaucoup, ne sont pas nécessairement toujours impliqués, parce qu'ils ne pensent pas que c'est important. C'est vrai que ce n'est que plus tard que ça revient. Mais je pense qu'il y a lieu de faire des activités qui impliquent aussi bien les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Fédérer les groupes d'âge différents, ça c'est important.